Soyez bienvenus sur les antennes de TV5 Monde et de RFI pour ce nouveau numéro d'International. Il y avait sans doute bien des raisons d'accueillir aujourd'hui Michaël Jean à cette émission. Bonjour madame, merci d'être avec nous.
Merci.
La semaine qui vient sera celle de la langue française et le 20 mars, on ne l'oublie pas, sera la journée internationale de la francophonie. Mais nous allons aussi et peut-être surtout parler de l'actualité internationale dans cet espace francophone qui regroupe 80 pays et 274 millions de locuteurs. Donc beaucoup de questions, je vous le disais, avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad, le chef du service international. National du monde. Peut-être quelques mots avant de vous donner la parole. Je rappelle votre parcours atypique et riche. Enfant, vous quittez la dictature du Valais en Haïti pour trouver refuge au Canada. Vous y serez la première femme noire, y présenter un journal télévisé, avant de devenir gouverneur général du Canada, c'est-à-dire chef de l'État. Vous serez également envoyé spécial de l'UNESCO en Haïti avant d'être élu il y a un peu plus d'un an, donc secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Peut-être une première question avant que nous nous retrouvions avec un reportage et les questions de mes confrères. La francophonie, le poste que vous occupez, c'est un magistère de la parole ou bien l'OIF peut vraiment peser sur le cours des choses?
Je pense que ce qu'on peut dire clairement, c'est que l'OIF est au cœur des choses, c'est-à-dire présente partout comme organisation internationale, face à tous les défis, avec un espace extraordinaire de 80 États et gouvernements sur les 5 continents, avec une langue qui est un levier formidable. Là, c'est la seule langue avec l'anglais à être parlée sur les 5 continents, avec un réseau immense. La francophonie, c'est un réseau aussi d'experts, un réseau de parlementaires, de villes, réseau de la société civile. Donc, une force de proposition, une force d'action.
Alors, je le disais, vous avez donc été élu il y a un peu plus d'un an, exactement. On va revoir ce qui s'est passé depuis votre élection et également, j'allais dire, votre feuille de route pour les mois qui viennent.
2015, une année sombre pour la francophonie. Le 7 janvier, la terreur gagne Paris. Fusillade dans les locaux de Charlie Hebdo. 2 jours après, c'est la prise d'otage de l'hypercacher. La France sous le choc et dans la rue. Le monde entier est Charlie. Une France endeuillée encore et toujours. Le 13 novembre, Paris est à nouveau frappé dans son cœur. Une série d'attaques sanglantes fait 130 morts.
Le terrorisme ne détruira pas la République, car c'est la République qui le détruira.
Mais la première victime de cette menace terroriste, c'est l'Afrique. Les pays francophones en première ligne. À Tunis, l'attaque du musée du Bardo fait 24 morts. 3 mois plus tard, un homme abat 38 personnes sur la plage de Sousse. L'horreur gagne la Tunisie.
Notre pays est en guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, nous devons nous rappeler que tous les Tunisiens sont touchés par ce drame et nous devons faire preuve d'unité.
L'année écoulée, plus de 4500 attentats meurtriers ont frappé l'Afrique, Beyrouth et son quartier chiite, ou encore le Mali, avec la prise d'otage du Radisson Blue à Bamako. Partout, un même ennemi, l'État islamique. Au Niger, au Tchad, au Cameroun aussi, le terrorisme tue. Cette fois, ce sont les islamistes de Boko Haram. Un fléau qui relègue au second plan une autre crise, celle des migrants. Une image l'a incarnée, le corps du petit Eylan échoué sur une plage turque. Plus 1 million ont rallié l'Europe en 2015, des colonnes d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient la guerre et les violences en Afrique. Là encore, c'est l'espace francophone qui est touché. Tour à tour, les pays européens ferment leurs frontières. L'Europe sans mur, divisée, dépassée.
Je veux demander à tous les potentiels migrants économiques, peu importe d'où vous venez, ne venez pas en Europe.
Quelle réponse peut apporter l'OIF à ces crises majeures? Quel rôle peut jouer la francophonie? Autre défi qui l'attend pour l'année à venir, la bonne gouvernance dans les pays africains. Avec 16 présidentielles prévues en 2016, le calendrier s'annonce chargé.
Revenons tout d'abord sur ces attentats qui ont endeuillé donc l'espace francophone et bien au-delà, bien sûr, la communauté internationale, avec une première question de Sophie Malibaud, RFI.
Michael Jean, quel rôle est-ce que votre organisation, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, peut jouer sur ce front du terrorisme? Est-ce que c'est uniquement un rôle en amont pour éviter que s'installent les groupes terroristes en Afrique, etc. Ou est-ce que vous êtes de plein pied dans l'action?
Alors je dirais que nous sommes déjà lourdement accablés et meurtris par ces attaques. Pas un seul de nos pays n'est, je dirais, à l'abri de cette situation. Nous avons vu, bien sûr, le traumatisme subi par la France, mais nous savons à quel point à la fois le Mali, l'Égypte, le Niger, le Cameroun, et ainsi de suite, tous nos pays sont frappés. D'abord, alerter, y compris le Conseil de sécurité de l'ONU, pour que la communauté internationale soit là aussi en renfort face à tous les efforts déployés par les pays africains, notamment eux-mêmes, pour lutter contre la menace terroriste. D'autre part, je retiens le mot du président Essebsi de Tunisie lorsqu'il dit « il nous faut être tous unis ». Ce que les chefs d'État de l'espace francophone disent d'une même voix, c'est que nous ne pouvons plus continuer chacun dans son deuil national. Nous ne pouvons plus être seuls ensemble, mais vraiment, il nous faut rallier toutes nos ressources, rassembler nos efforts. Et ce que nous mettons sur pied en ce moment à l'OIF, c'est une cellule d'experts spécialisés sur comment anticiper les attaques terroristes, comment agir en termes de sécurité des frontières, sécurité des populations, défense des populations face à ces attaques. Francopol est un réseau important aussi au sein de la francophonie pour la formation des policiers. Donc ça, c'est aussi une force de réaction très présente face à ce fléau.
Christophe Ayad, Le Monde.
Il y a un pays particulièrement fragile qui est la Tunisie. Il a été frappé deux fois, en fait trois, en une année, au Bardo, à Sousse, et puis tout récemment à Ben Gardane. Mmh. On a l'impression que à chaque fois, on dit on va se mobiliser, on va faire des choses, on va aider la Tunisie, etc. Puis en fait, il se passe rien. Qu'est-ce qui est fait pour protéger la frontière tunisienne entre la Tunisie et la Libye? Qu'est-ce qui est fait pour renforcer l'économie tunisienne et faire que les jeunes trouvent du travail et ne partent pas éventuellement chez l'État islamique en Libye? Qu'est-ce qui aide la Tunisie?
Au fait, je crois que la mobilisation, elle est générale au sein de, notamment de l'espace francophone, pour que les pays puissent, comme je le disais, unir leurs efforts et surtout leur capacité de faire, leur capacité de gestion de ce fléau. Évidemment, la Tunisie, dans cette frontière avec la Libye, se retrouve fortement exposée. On sait aussi que l'embrigadement des jeunes en Tunisie est une préoccupation majeure. Plus de 3000, dit-on, de jeunes tunisiens ont été appelés à joindre les forces de Daesh. Mais cela dit, d'aucune façon, les pays ne pourront s'en sortir seuls. On se rend compte que, par exemple, les modes opératoires restent les mêmes, c'est-à-dire frapper des lieux où l'on retrouve des internationaux, agir partout là où l'on sent que la situation est fragile. Et je crois qu'il est essentiel de continuer cette mobilisation que nous engageons, je le disais, entre autres, en réunissant une cellule d'experts, en permettant aux ministres de l'Intérieur, ministres de la Sécurité publique, pour les pays qui ont aussi des directions de renseignement, de travailler ensemble, parce que l'important, c'est justement de rassembler toutes nos capacités de faire.
Michael Jean, la Tunisie, le Premier ministre tunisien en est à faire un appel aux dons pour abonder un fonds antiterroriste. C'est que vraiment, il manque de moyens et il manque de capacités. Oui, mais particulièrement la Tunisie, particulièrement vulnérable, on le voit à la frontière avec la Libye. Donc, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui doit être fait de façon très concrète, voire financièrement,
pour les Tunisiens? Il faut maintenir cette
force de... Par l'Europe également, il y a d'autres acteurs.
Forcément, par l'Europe, il faut aussi que le Conseil de sécurité soit de la partie.
De l'ONU,
Mais je dirais que cette mobilisation avec cette force que nous représentons, même dans l'échange de nos renseignements, dans la mobilisation aussi de nos forces policières, par la formation, la surveillance des frontières, tout ça doit être mis, je dirais, en place et en commun pour agir, parce que en ce moment, nous nous rendons compte à quel point la situation et la façon de faire est de nous étourdir en frappant partout et à tout moment. Je dirais, la France elle-même, regardez, face à cette situation, se retrouve obligée d'investir des ressources énormes. Donc, surtout briser l'isolement. Que d'autres pays francophones n'ont
pas. Qu'est-ce que vous pensez du fait des interventions militaires qui se multiplient sur la Libye? Il en est question, on ne sait pas encore exactement sous quelle forme, mais il en est de plus en plus question. question. Ça a déjà été le cas, ça n'a pas donné vraiment de résultats. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de la multiplication des interventions militaires et même des coalitions, tandis qu'il y a un autre sujet, le développement, des sujets de fond comme ça qui sont un peu laissés à l'abandon?
Je dirais que vous avez raison de mentionner le fait que la mobilisation militaire n'est qu'une option parmi tant d'autres. Par exemple, même la médiation culturelle peut intervenir. Cette grande campagne que nous lançons à travers la francophonie sous le thème « Libre ensemble » et qui mobilise la jeunesse.
On le verra tout à l'heure, en effet, avec un clip.
Elle est importante parce que il faut également s'assurer que les jeunes aient voix au chapitre, puisque ce sont eux qui sont les premiers, à subir à la fois le front d'embrigadement venant des groupes terroristes. Et les opérations de radicalisation visent particulièrement les jeunes. Mais en même temps, ce qu'il est très important de mobiliser, c'est de faire entendre leur voix comme étant aussi partie de la solution. C'est-à-dire montrer que les jeunes, en très grand nombre, rêvent et veulent d'un monde totalement différent. Ils sont encore très, très, attachés à des valeurs.
D'autre part, par le développement,
ils veulent des emplois. Partout, ils veulent des emplois. Le problème aussi, c'est que la force d'embrigadement vient du fait également de la précarité dont les jeunes sont les premières victimes. Et notre réponse à nous, c'est d'agir également sur le front de la formation, la création d'emplois, le soutien aux initiatives économiques des jeunes et des femmes dans des filières créatrices d'emplois. Et ça, il faut absolument une mobilisation
réponse
majeure.
Économique contre
l'endoctrinement. Oui, parce que notre première stratégie, notre premier programme de la stratégie économique pour la francophonie est justement celui-là.
Mais agir sur la création d'emplois. Comme ça, prioritaire. La Tunisie fait-elle partie de vos priorités?
La Tunisie en fait partie. L'Afrique subsaharienne francophone en fait partie. Et nous sommes à déployer en ce moment tout un réseau d'incubateurs et d'accélérateurs de TPE, de PME, justement pour s'assurer d'apporter de l'espoir, des possibilités pour les jeunes et d'utiliser aussi la croissance économique comme une façon de désamorcer les situations de crise dans ces pays.
Michael Jean, je reviens à la question de Sophie. Est-ce qu'il faut ou pas aujourd'hui intervenir militairement en Libye? Il y a un débat en ce moment. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est plus tard? Sous quelle forme?
Je crois que tous les pays sont à discuter aussi de la pertinence, de l'offensive militaire. La situation en est une d'insécurité majeure. Certains pousseront un mot encore plus fort et dire nous sommes en guerre. Il y a là un front. Il y a là un front réel. Et il est sûr qu'il va falloir agir sur les lieux où Daesh et d'autres essaient d'implanter, leur pouvoir.
On sait que Daesh compte 3 à 5 000 combattants à Sirte. Est-ce qu'il faut bombarder Sirte?
Est-ce qu'il faut bombarder Sirte? Je dirais que c'est au pays d'en venir à cette décision. Mais je vous dirais une chose, que l'on décide ou non de bombarder Sirte ou de bombarder ailleurs, ce qu'il faut se dire, c'est que l'option militaire en est une parmi tant d'autres. Entre-temps, il faut continuer à travailler aussi sur les situations qui permettent justement à ces milices et ces forces de destruction de gagner du terrain dans les esprits, sur dans les pays eux-mêmes. Et le fléau principal est celui, il est vrai, du désœuvrement, du sentiment d'impasse, du chômage des jeunes. Et là, il faut assurément arriver avec pratiquement presque un plan Marshall pour aider ces pays et créer des possibilités dans ces pays.
Vous êtes le premier secrétaire général qui n'est pas issu de l'Afrique, hein, je le rappelle. Vous êtes en Haïti et vous avez grandi au Canada. Quand vous voyez la réalité économique de l'Afrique, où depuis des années, effectivement, on parle de soutien, de développement, est-ce que c'est pas là qu'on a raté quelque chose, peut-être, pour justifier ou pour expliquer ce terreau de grande déstabilisation?
Je pense que d'une part, il y a une chose qui est très nette en Afrique, c'est le désir de sortir de la situation d'assistanat. La façon dont nous, par exemple, de l'Organisation internationale de la francophonie, procédons, d'abord rassembler des fonds. Ça, je l'ai fait. Il y a des contributions ont pu être rassemblées pour permettre justement la mise en œuvre de ce programme de création d'emplois et de soutien aux TPE, les très petites, et aux PME, les très petites et moyennes entreprises, de sorte que nous puissions appuyer véritablement et concrètement des initiatives économiques venant et des jeunes et des femmes qui sont des forces vives qui permettent aussi de stimuler la croissance dans les pays. Et cela dit, dans des filières créatrices d'emplois. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes en discussion avec les autorités de ces pays. Premièrement, pour voir quelles sont les filières qu'ils souhaitent développer, les compétences qu'ils souhaitent renforcer. Et nous n'arrivons pas en disant voilà ce qui est bon pour vous, mais vraiment à l'écoute de ce que les pays veulent réaliser, à l'écoute aussi des forces vives dans ces pays et des acteurs économiques.
Vous étiez à La Valette au sommet Europe-Afrique. Ce sommet n'a pas accouché de grand-chose. Il y a de l'argent qui est promis, mais c'est disproportionné par rapport à l'ampleur de la tâche.
Mais déjà, je pense qu'il est important d'y être. D'y être pourquoi? Parce que la francophonie est un espace, comme vous savez, à la fois le pays de départ, pays de transit, pays de destination et pays d'accueil. Donc, nous ne sommes pas indifférents. Et ce qui m'a ravi, et l'on verra jusqu'où iront les engagements pris, c'est de voir que nous nous entendons tous sur une même chose. À la fois cette grande réunion qui a rassemblé l'Union européenne, l'Union africaine, de nombreux chefs d'État et de gouvernement disaient une chose. L'important, et c'est ce que nous nous disons ici même sur ce plateau, c'est d'agir à la source du problème. Et c'est la position que nous prenons. C'est-à-dire,
est-ce qu'on
sur la création d'emplois, créer des espoirs, créer des possibilités,
est-ce qu'on peut s'en
pour éviter
tenir
ces
à
exodes.
Négocier, est-ce qu'on peut s'en tenir à négocier des accords de réadmission? C'est-à-dire qu'on a des pays, je pense par exemple au Niger, des pays qui sont déjà plein de réfugiés des pays d'à côté. Enfin, je veux dire, Boko Haram est au sud du Niger. Ils sont déjà, eux, avec des déplacés par centaines de milliers. Oui. Et on essaye de négocier avec ces pays-là des accords de réadmission. Il n'y a pas un manque cruel de générosité de la part de l'Europe?
Je pense
plus
que
de la générosité, même.
Je pense qu'effectivement, la solidarité n'est pas au rendez-vous. Cela est clair. On voit à quel point l'Europe se sent totalement dépassée. Alors même que l'on a ici même pour cette émission mentionné la situation de la crise migratoire, que voyons-nous d'abord? Cet enfant syrien échoué sur une plage, et c'est de lui dont on se souvient. Drame terrible. Je porte aussi dans mon cœur la situation terrible que vivent les réfugiés syriens. Je suis passée par là et je sais
vous
ce que c'est.
Vous avez
que
vous-même été réfugiée.
Épreuve. C'est une épreuve terrible que de devoir se lancer vers l'inconnu en espérant trouver mieux et devoir se reconstruire, repartir à zéro. Cela dit, évidemment, je demande que l'on n'oublie pas également tous ces migrants en provenance d'Afrique subsaharienne francophone. Combien de centaines d'entre eux ont péri en mer et dont on ne se souvient pas? De Lampedusa, on ne parle plus. Les médias n'en parlent
mais
pas.
Mais vous entendez pourtant l'Europe qui dit aux réfugiés économiques, c'est de ceci dont on parle.
Moi, je ne fais pas cette différence.
Vous ne la faites pas?
Non. Parce qu'au fait, réfugiés politiques ou réfugiés économiques ou migrants, je dirais, ce sont souvent les mêmes situations et les mêmes circonstances qui produisent les deux. Et en même temps, c'est une même tragédie. Il y a là un drame humain qui se vit.
Donc vous dénoncez la réponse de l'Europe qui dit surtout ne venez plus.
Je trouve, écoutez, c'est comme si l'Europe avait la mémoire courte. Je viens d'un pays, le Canada, qui a su accueillir ma famille et des milliers d'autres. Et je sais à quel point ils ont été des milliers en provenance d'Europe à trouver refuge et asile au Canada. Et finalement, avec un apport des plus positifs, à participer à l'édification de ce pays. Or, je suis effectivement troublée de voir une si courte mémoire.
Pardon, l'Europe est malade de ne pas être en mesure de trouver le moindre début de solution?
Je crois que le problème est quand même de taille. Je crois qu'une réponse solidaire pourrait encore être trouvée, mais je vous dirais que plus important encore, c'est d'agir à la source du problème. C'est-à-dire que les pays qui voient partir aussi par milliers de leur force vive se retrouvent également dépossédés. C'est une tragédie. Ces pays se retrouvent exsangues. En plus de citoyennes et de citoyens en qui ils ont investi. Ils ont investi en termes d'éducation.
Oui, car nombre d'entre eux sont effectivement diplômés, ont une formation.
Exactement. Et ça, c'est tragique. Donc, agir, et je parlais presque d'un plan Marshall qui est nécessaire, là encore solidairement, à la source du problème, pour la création d'emplois, pour s'assurer, effectivement, qu'une formation en adéquation avec les besoins sur le marché du travail soit également là et disponible, et c'est ce que nous faisons, c'est ce sur quoi nous travaillons. Je vous dirais même que la naissance d'un institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, installé à Dakar et qui va rassembler toutes les compétences de l'espace francophone en la matière, tient essentiellement à cela.
Michaël Jean, nous allons faire une pause sur les antennes de RFI TV5 Monde, le temps de prendre connaissance de l'actualité, et on vous retrouve avec beaucoup de questions.
RFI, quasiment midi 30 ici à Paris, merci d'être à l'écoute.
Retour international sur antenne de TV5 Monde de RFI, émission réalisée avec le quotidien Le Monde. Nous parlions des migrations avant cette pause. Question de Christophe Ayad.
Il y a un pays, le Canada, qui fait exactement le contraire de ce qu'on fait en Europe en ce moment. C'est-à-dire qu'il augmente le quota de réfugiés qu'il va accueillir, il supprime la déchéance de nationalité qui avait été mise en place par le gouvernement précédent, il arrête les frappes en Syrie. Est-ce que j'ai l'impression que Trudeau, c'est le contre-modèle de ce qui se passe en Europe et d'une montée, d'une forme de fermeture ou de populisme en Europe ?
Moi, je pense qu'au fait, le Canada fait ce qu'il a toujours su si bien faire.
Ou alors, visiblement, il l'avait moins fait ces dernières années.
Je crois que les Canadiens se sont prononcés. Ils ont élu un Premier ministre et avec le sentiment de revenir, je dirais, à l'expression de valeurs qui leur sont chères. Les Canadiens se sentent tout à fait à l'aise avec cette ouverture, justement, de leurs frontières, de leur sol, et leur capacité d'accueil de réfugiés. Et ça a toujours très très bien servi le pays. Je ne suis pas née au Canada, je suis arrivée réfugiée politique avec ma famille, comme des milliers d'autres, et j'ai pu porter et représenter le Canada à la plus haute institution de l'État.
Michael, c'est ça aussi le Canada. On dira aussi que la situation au Canada est très différente, et qu'aujourd'hui en Europe, par exemple, élection en Allemagne, où la chancelière, qui avait ouvert les bras à ses réfugiés, est en position délicate et impopulaire pour ces élections qui vont rassembler 13 millions de personnes en Allemagne. Situation très différente. La comparaison vaut ?
Je dirais que... Bon, je salue d'une part le geste qui a été celui de Mme Merkel, c'est-à-dire d'ouvrir et d'essayer d'agir sur les mentalités. Mais on sait à quel point les préjugés ont la vie dure. Bien sûr, il y a également un certain populisme qui est dans, je dirais, cette espèce de crispation, de réserve face à l'autre. Mais ce qu'elle a tenté de dire et qui quelque chose que les Canadiens savent défendre aussi avec force, c'est qu'on n'arrive pas les mains nues ni les mains vides lorsque l'on prend asile quelque part. On arrive aussi avec une volonté de donner le meilleur de soi-même, une volonté de participer à quelque chose et d'être utile. Le Canada a connu sa prospérité ainsi. Nous sommes avec ce sentiment de l'ensemble dans la diversité. Je sais par exemple, au moment où je vous parle, je suis dans un pays où parfois, lorsque l'on parle de diversité, on parle de l'autre, de ceux qui sont différents. Mais je viens aussi d'un pays où lorsqu'on parle de diversité, on parle de l'ensemble, nous tous. Mmh. Et avec ça, je pense que il faudrait peut-être pouvoir nourrir la réflexion sur la nécessaire solidarité et la possibilité aussi d'accueillir ceux qui en ont besoin.
Michael Jean, je voudrais qu'on parle des pays de la francophonie, États et gouvernements. Un certain nombre d'entre eux, on ne va pas faire ici un hit-parade, ont parfois des soucis avec la gouvernance. Mm-hmm. Et là, on peut dire que l'OIF n'a pas toujours été d'une sévérité extrême pour les rappeler à l'ordre. On bricole un peu la Constitution de façon subreptice, comme on dit. Mm-hmm. On fait un quatrième mandat que ne prévoit pas la Constitution. Qu'est-ce que l'OIF, qu'est-ce que la francophonie peut faire pour dire à certains de ces pays, que je ne nomme à nouveau pas, ils vont se reconnaître, qu'on pourrait gouverner de façon beaucoup plus éthique?
Je pense que déjà, d'abord, vous touchez à une chose qui nous occupe tous les jours, c'est-à-dire l'accompagnement du processus électoral dans les pays. En ce moment, en 2016, nous avons pratiquement 16 pays africains qui entrent justement dans un processus électoral. Et nous sommes partout. Nous sommes partout avec des envoyés spéciaux que je dépêche, des chefs de mission.
Madame,
des
vous êtes partout, mais un certain nombre d'entre eux bricolent la Constitution, pardon de me répéter, à quelques semaines de l'élection, ils font un troisième, un quatrième mandat.
En fait, je crois que lorsque, dans certains pays, certains décident de revisiter la Constitution, est important aussi que la population, et je crois que les populations ont changé, soit d'une extrême vigilance à savoir quelle est la finalité de la démarche. Est-ce dans l'intérêt supérieur du pays, ou est-ce strictement pour garder le pouvoir, ou se mettre à l'abri? Je pense que les populations ne sont pas dupes. Elles sont, on le voit, elles se manifestent
on a des voix qui se font entendre et avec force. Ce qui s'est passé, par exemple, au Burkina Faso est très éloquent. C'est-à-dire que la population...
Blaise Compaoré qui a
vraiment,
été chassé en quelques jours.
Mais la population s'est mobilisée en disant quoi ? En disant, on ne peut pas confisquer nos institutions.
C'est un modèle à suivre ?
Moi, je pense qu'il faut surtout voir ce qui s'est passé là. Il s'est passé là quelque chose de, je pense, de très indicateur de l'état de conscience dans lequel les populations se retrouvent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles ont dit à cette tentative de coup d'État ? Elles ont dit c'est un geste d'un autre temps et plus jamais ça. Nous ne pouvons pas accepter que l'on confisque nos institutions. L'autorité de transition se doit d'être de poursuivre son travail. Les élections se sont passées et
Michael Jean. Ça s'est passé au Burkina Faso, ça ne s'est pas passé au Congo-Brazzaville. Pas du tout de la même manière.
Où les élections ont lieu la semaine prochaine.
Il y a eu une modification de la Constitution, un référendum, et maintenant il y a une élection présidentielle pour un énième mandat de M. Sassou Nguesso. Est-ce qu'il faut aller observer cette élection ?
Absolument. Moi, je crois que...
Mais l'Union européenne n'y va pas.
Elle. L'Union européenne n'y va pas, mais moi, j'y dépêche d'emblée un envoyé spécial qui ira non seulement, de ma part, voir le président Sassou Nguesso, mais aussi tous les autres acteurs politiques. J'estime qu'il est important d'être là, il est important de s'assurer que les choses puissent se passer dans un climat apaisé. On a eu, je pense, des inquiétudes sérieuses quant à la façon dont le référendum s'est déroulé. Moi, j'estime que dès lors qu'il y a mort d'hommes, qu'il y a mort de femmes et que des citoyens y perdent la vie lors de ces opérations, il y a de quoi s'inquiéter. Maintenant, ce dont il faut s'assurer, le processus électoral est en marche, les élections se tiendront le 20 mars.
Dans une semaine, tout juste.
Il est important d'être là, d'être sur le terrain et de travailler aussi en étroite collaboration avec d'autres envoyés spéciaux sur le terrain. Par exemple, j'ai dépêché l'ex-président Michel Cafando qui se rend dès cette semaine à Brazzaville et en même temps il travaillera en étroite collaboration avec l'envoyé spécial de l'ONU qui est Monsieur Battili. Donc c'est ça au fait, c'est toujours rester là, présent et avec notre capacité effectivement de nous assurer que les choses se passent dans un climat apaisé.
Michael Jean, quand vous voyez qu'en amont du scrutin, la commission électorale censée être indépendante est d'ores et déjà contestée par l'opposition qui est en train de mettre en place sa propre commission. Est-ce que c'est quelque chose
que
vous
inquiète ? Je pense que voilà une chose qu'il nous faut observer de près. C'est-à-dire que dès lors que l'opposition décide de créer aussi une commission électorale bis, je veux dire en parallèle de la commission électorale nationale, il y a là une chose à observer et de voir ce que cela va introduire aussi comme situation nouvelle. C'est vous dire que les gens ne sont pas dans l'apathie. Il y a une population qui se mobilise, mais l'important c'est de s'assurer, et c'est ce que j'attends du président Cafando que je dépêche sur place, que la classe politique, tous les acteurs politiques s'assurent d'une chose, que tout puisse se passer vraiment dans des conditions qui, pour la population, sont les conditions les meilleures et des conditions sécuritaires et dans un climat apaisé.
Michael Jean, il y a un pays qui retient l'attention et sans doute l'inquiétude, c'est le Burundi. On peut revisiter l'histoire contemporaine récente où les droits de l'homme sont malmenés. Est-ce que on peut mettre à l'écart un pays de la francophonie ? Est-ce qu'on peut le mettre sous surveillance ? Est-ce qu'on peut dire des choses lorsque, à l'évidence, la gouvernance dérape ?
D'abord, ce que nous avons fait, c'est que, de manière consensuelle, nos instances se sont prononcées sur le cas du Burundi et ont placé le Burundi sous observation. Cela veut dire que c'est déjà
une mesure.
Une mesure, c'est un avertissement, mais en même temps, en gardant le lien, en travaillant étroitement avec... On ne coupe pas les ponts et nous disons la même chose que l'Union européenne, que l'Union africaine, que les Nations unies. L'important, c'est d'en venir à un dialogue national. La situation de déni de la gravité des choses dans le pays nous inquiètent. Nous entendons les autorités burundaises, effectivement, essayer de un peu de...
Il y a des accusations à l'égard du pays voisin.
De banaliser la gravité des choses, le nombre de réfugiés qui sont pratiquement 300 000 à avoir pris refuge ailleurs, des personnalités qui ont dû fuir, des médias mis en difficulté.
Donc sous surveillance, mais on ne condamne pas encore plus précisément. on ne met pas en dehors de la communauté.
Sous surveillance, ce qui veut dire en disant clairement que jusqu'à présent, nous ne sommes pas satisfaits de la conduite des autorités face au problème, que nous sommes inquiets, que nous appelons à un dialogue national nécessaire et nous maintiendrons cette pression. Cela dit, nous aurons une commission politique et nous aurons bientôt aussi un conseil permanent de la francophonie. Et là, les représentants des chefs d'État et de gouvernement auront aussi à statuer sur la prochaine sanction.
Et si ça ne s'améliore pas, qu'est-ce qui est sur la table? C'est quoi la prochaine étape?
Si ça ne s'améliore pas, bon, selon nos textes de référence, cela pourrait aller jusqu'à la suspension. Cela pourrait aller jusque-là. Mais le plus important pour nous, pour le moment, c'est de nous assurer de garder d'une part le lien, de maintenir la pression, et cela avec tous les autres acteurs internationaux, nous disons exactement la même chose, et de miser, je dirais, sur l'avènement et que toutes les conditions soient réunies pour un dialogue national.
Ce qui est très dangereux en ce moment dans cette région du monde, ce sont les accusations aussi portées à l'encontre du Rwanda voisin par les autorités du Burundi. Est-ce que vous êtes en discussion avec le Rwanda? Comment ça se passe actuellement? Est-ce qu'on peut éviter que la situation s'envenime gravement?
La discussion est menée avec, je dirais, tous les acteurs de la région. Parce que ce qui se passe au Burundi est un péril grave pour la sous-région, pour l'ensemble de la région. Donc, nous trouvons important de garder, d'être là, présent sur le terrain, présent aussi dans les discussions et par les pressions que nous faisons. Évidemment, il est clair que si la situation, s'embrase, si à un moment des tensions mettent, je dirais, face à face certains pays et qu'un conflit se déclare, ce sera une catastrophe. Et c'est pour cela qu'il est important d'agir et de ne ménager aucun effort pour nous assurer que le dialogue national se passe et soit mené dans les meilleures conditions.
Michael Jean, vous allez accueillir l'année prochaine au sommet Madagascar 80 chefs d'État et de gouvernement. Certains d'entre eux sont au pouvoir depuis plus de 30 ans, 35 ans. Vous leur parlez du renouvellement lorsque vous êtes en entretien bilatéral. Vous leur dites faut peut-être préparer la suite ou est-ce que c'est un sujet tabou?
Je ne pense pas que ce soit un sujet tabou. Je crois qu'il est essentiel.
Est-ce que l'OIF pèse assez pour être entendu?
La démocratie, de parler aussi de la nécessaire alternance, du renouvellement aussi, je dirais, des forces et du leadership. Et ce n'est pas uniquement l'OIF ni la secrétaire générale de la francophonie qui tient ce discours. Nous voyons aussi dans l'espace francophone et notamment dans ces pays d'Afrique subsaharienne francophone des chefs d'État eux-mêmes qui vont dans cette direction. Voyez par exemple le président Macky Sall qui était prêt à suspendre
à réduire son mandat
passer de 7 ans à 5 ans et qui a demandé une révision de la Constitution en ce sens.
D'accord, mais aux autres qui sont là depuis 35 ans, vous leur dites quoi? Vous leur dites allez, il faut bouger un peu?
Au Sénégal, Macky Sall a décidé de ne pas s'appliquer lui-même cette réduction de mandat.
Il suit la recommandation de la Cour constitutionnelle. Là encore, il reste dans les règles. Et cela est important. Mais je pense il n'y a pas que nous qui avons voix au chapitre sur le sujet. Il y a aussi les populations elles-mêmes. Je veux dire, ce plus grand état de veille, c'est ce plus grand état de conscience des populations qui au fait s'engagent et s'impliquent davantage sur la scène politique. C'est ça également qui peut faire toute la différence. Voyez les taux de participation. Ils sont intéressants. Les gens vont voter. Les gens sont présents, attentifs.
Donc ça doit passer par une révolte populaire pour changer de... Pour avoir l'alternance.
Pourquoi avancer sur le mot révolte? Je pense que le plus important...
Soulèvement.
Je crois prise de conscience et participation. Plus grande participation.
Par les urnes.
Parfois, je trouve que le fait de s'abstenir n'est pas nécessairement la façon la meilleure.
Vous pensez au Niger?
Je pense au Niger
avec le boycott annoncé de l'opposition au deuxième tour des élections.
Je crois que, vous voyez, au Niger, là encore, nous sommes arrivés en renfort. L'OIF d'une part. Nous avons procédé par un audit du fichier électoral et ça a eu pour effet de faire baisser les tensions politiques qui étaient réelles. Le premier tour s'est passé. Là encore, nous avons eu comme expert de l'audit du fichier électoral le général Sangaré, qui est vraiment reconnu pour l'efficacité et l'expertise qui est la sienne. Et en même temps, nous avons dépêché sur place mon envoyé spécial et l'ancien président Michel Cafando. Nous suivons de près le cours des choses. Nous allons voir pour le second tour qui se tiendra le 20 mars. Mais par contre, je tiens à dire que les circonstances, les tensions, même si elles ont été apaisées temporairement, elles pourraient ressurgir. Et là, il faut rester vraiment attentif.
Christophe Ayad.
On parle beaucoup d'Afrique, mais il n'y a pas qu'en Afrique. Il y a des problèmes de gouvernance en Pologne. Il y a un gouvernement qui vient de complètement paralyser le tribunal constitutionnel par une série de lois qui sont jugés négativement par le Conseil de l'Europe. Est-ce que la francophonie a son mot à dire là-dessus? Parce qu'après tout, la Pologne fait partie de cet ensemble politique.
Je pense que la francophonie a d'une part a toujours rappelé la nécessité de veiller à au respect, je pense au respect des droits et des libertés, au respect de la liberté d'expression. Nous travaillons de près avec les médias, les journalistes, la société civile, et nous trouvons que dès lors qu'il y a écart de conduite pour ce qui est en tout cas du respect de la liberté d'expression, il y a de quoi effectivement.
Oui, mais est-ce que vous intervenez en ce moment dans la crise polonaise qui est pas seulement sur la question de la liberté d'expression, mais sur le fonctionnement institutionnel de l'État polonais.
C'est-à-dire que là où la pression est nécessaire, c'est toujours dans le rappel de la nécessité de respecter l'État de droit. Et ça, dans tout l'espace francophone.
Oui, mais ça, c'est une notion générale.
C'est plus qu'une notion générale.
Oui, mais vous parlez avec le gouvernement polonais, le nouveau gouvernement dirigé par le PiS.
C'est-à-dire que parler avec le gouvernement est une chose.
On a l'impression que la francophonie, c'est toujours pour l'Afrique.
Non, la francophonie n'est pas que pour l'Afrique. La francophonie, c'est nous tous ensemble. Les 80 États et gouvernements avec une force aussi d'influence, une force de rappel, une force aussi, je dirais, d'incitation, une force de proposition. C'est ce que nous sommes.
Et donc
c'est
ce que nous sommes.
Donc en Pologne également, en Pologne comme partout ailleurs. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a écart, nous sommes là, dans toutes nos instances, rassemblés pour soumettre les problèmes et pour les examiner ensemble.
Et vous jugez la situation inquiétante à Varsovie?
Bien sûr que dès lors où il y a tentative de musellement, cela devient inquiétant, assurément.
Je voudrais passer un autre pays qui ne fait pas partie de l'Afrique, mais qui est dans l'espace francophone, c'est Haïti, qui sort ou qui n'est pas tout à fait sorti d'une crise politique assez profonde, puisque le président a failli aller aux élections tout seul. Comment est-ce que vous voyez
l'issue de cette...
Ça ne s'est pas passé, c'était moins une.
Vous avez
oui, mais ça n'aurait pas pu se passer.
Ça n'aurait pas pu se passer.
C'est-à-dire que ça n'aurait pas pu. Pourquoi ça ne s'est pas passé? Parce qu'il y a eu un dialogue national. Parce qu'il y a eu un dialogue qui a impliqué à la fois les partis politiques, la société civile, les parlementaires, et qui a eu force de pression sur l'exécutif. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le président est parti et a quitté le pouvoir à la date dite et prescrite par la Constitution. Et ce que l'on voit, c'est que vous avez justement cette proposition de sortie de crise qui a mené à un président de transition avec le président Privert, avec un calendrier bien fixé pour la reprise du processus électoral, la nomination récente d'un Premier ministre, la constitution d'un gouvernement, un conseil électoral provisoire qui sera replâtré et à remettre en place, une commission de vérification, et nous avons eu une demande formelle des autorités haïtiennes, et la mission est déjà en place à Port-au-Prince, pour accompagner ce processus. Donc, la vigilance est là.
Je vais peut-être changer de registre. Nous avons tout à l'heure commencé cette émission avec le terrorisme. Nous arrivons au terme de cette émission. Je voudrais parler de ce qui est peut-être un événement à la fois musical et culturel. Vous venez de lancer l'opération Vivre Ensemble. Plus d'un million de vues en très peu de temps sur les sites.
Mieux que Vivre Ensemble, c'est Libre Ensemble.
Libre Ensemble. Ensemble. Oui. Libre Ensemble sur RFI, sur TV5 Monde. Ce clip sera diffusé, effectivement, Libre Ensemble. Je voudrais qu'on vous voit dans un registre un tout petit peu inhabituel.
De Dakar à Bruxelles, de Montréal à Paris, de Casa à Ouaga, de Lomé à Hanoï, de Jacmel à Kinshasa, nous sommes sur les 5 continents et chaque parole, chaque mot compte. Dire ce qui nous lie ensemble, dire notre fureur de vivre libre ensemble. Alors votre voix compte. Rejoignez-nous sur notre plateforme, on veut vous entendre.
Voilà un clip libre ensemble que l'on entendra naturellement, je le disais à l'instant, sur les antennes de RFI, sur celle de TV5 Monde, libreensemble.com. C'est pour montrer une autre image de la francophonie, peut-être moins institutionnelle, pour interpeller les jeunes.
En fait, l'idée n'est pas de montrer, l'idée est de faire, l'idée est de rassembler. Nous avons parlé jusqu'à présent beaucoup de médiation politique.
Oui.
Là, il s'agit de médiation culturelle. Pourquoi ? Parce que il faut absolument libérer, libre ensemble, cette parole de la jeunesse qui est vraiment un engagement réel pour la défense de valeurs auxquelles ils tiennent. Et déjà, la première valeur et la plus suprême, la plus rassembleuse, est la valeur de liberté. Mmh. Et ce qui nous a fasciné, c'est de voir à quel point, en lançant déjà cet appel libre ensemble, combien de jeunes ont réagi. Des jeunes l'ont fait par tous leurs modes d'expression, entre autres, poésie urbaine, slam, rap, bien sûr, mais aussi par la force de leur parole, la force de leur voix, sans crainte. Et ils continueront de le faire. Déjà, cette campagne a touché plus d'un million de personnes en à peine 4 jours.
Sur les 5 continents.
Sur les 5 continents, en à peine 4 jours. Avec cette langue que nous avons en partage, qui est le français, amener les jeunes à dire ce qu'ils pensent des valeurs et à dire elles sont intouchables. Et nous, voilà le monde dont nous rêvons. Voilà le monde que nous voulons. Donc, nous ne serions, je pense, irresponsables. Ce serait irresponsable que de se priver de cette force de mobilisation et cette force de parole.
Comment se porte la langue française ?
La langue française se porte bien, puisque vous voyez à quel point, au fait, elle sert de levier extraordinaire, pour notamment pour ces jeunes qui ont envie d'établir entre eux des passerelles, qui ont envie de se rejoindre sur les 5 continents et de défendre ensemble des valeurs et de se dire, bon voilà, avec cette plateforme qui nous est offerte, on peut faire beaucoup, on peut se faire entendre, on peut faire comprendre qu'on fait partie des solutions.
Alors, Michael Jean, quand la France réforme l'orthographe, est-ce qu'elle se coordonne avec la francophonie ou elle fait, comme d'habitude, des choses un peu toute seule?
Écoutez, vous aimez bien l'accent circonflexe?
Moi, ce que j'aime surtout, c'est le tréma sur le E qui suit le A dans mon prénom.
Eh oui,
et à ça, ne touchons
Michael
pas.
Michael Jean, oui, c'est vrai.
Non, écoutez, je crois que, bon, voilà, on peut parler d'orthographe. Moi, je préfère parler du pouvoir des mots. Moi, je préfère parler de ce que les mots produisent comme sens et comment ce sens est porté de manière vigoureuse, entre autres par la jeunesse. Je reviendrai à cette campagne. Elle est essentielle parce que là, ce que nous allons trouver, c'est sur cette plateforme des jeunes qui vont se rencontrer, qui vont établir des liens entre eux, qui vont comparer aussi les initiatives qu'ils prennent de lutte et de résistance. Et c'est réel pour parler à la fois de démocratie, de devoir, de responsabilité civique, d'initiative citoyenne, pour parler aussi de leur désir de s'engager ensemble, y compris sur des entreprises économiques. Et pourquoi pas ?
Oui, mais je reviens à la réforme de l'orthographe. Quand la France annonce une réforme comme ça, est-ce qu'elle se coordonne ou, en fait, elle fait comme d'habitude les choses un peu toute seule, puisqu'après tout, la France, c'est la francophonie.
En fait,
et puis voilà, les autres n'ont qu'à suivre.
Moi, je vous dirais que quand la France, qui fait partie de l'espace francophone, procède de la manière, nous observons, nous regardons. Et puis après, je dirais que nous disposons tous aussi de la langue comme nous le voulons, parce qu'elle n'est pas que la langue.
Donc le français n'appartient pas qu'à la France.
Elle n'appartient pas qu'à la France, cette langue.
Et Michael Jean, comment se porte l'organisation elle-même, l'OIF, les finances, les contributions rentrent, les gros contributeurs honorent leurs promesses?
Alors le plus important pour moi, et c'est cela, je dirais, mobilise une grande partie de mon énergie, c'est d'élargir l'espace de nos partenaires. D'une part, aller vers le secteur privé, négocier avec beaucoup d'ardeur avec des institutions financières comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, être là aussi avec des partenaires importants comme l'OCDE, aller du côté du Fonds monétaire international.
Vous avez besoin d'élargir parce que les contributeurs traditionnels ont du mal.
Au fait, parce que d'une certaine manière et de façon certaine, nous avons besoin de ressources supplémentaires pour mener entre autres ces programmes destinés à soutenir
les très petites et moyennes entreprises, des filières créatrices d'emplois, il faut des fonds pour pérenniser ces actions. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que d'emblée, pour soutenir ce programme, nous avons eu une contribution financière très généreuse venant du Canada, et les autres pays qui ont suivi sont des pays notamment africains, qui ont mis de leurs deniers, c'est-à-dire pour ne pas rester cantonnés dans l'assistanat, mais investir dans un programme dont ils connaissent l'importance.
La France n'a pas suivi pour l'instant ?
La France, négociation avec l'Agence française de développement, mais je crois que nous arriverons à nous rejoindre sur ces mêmes objectifs. Et ce que je dis, et ça c'est capital, nous ne pouvons plus être seuls, nous devons avancer sur une approche multipartenariale et nous tous ensemble sur les mêmes objectifs. On produit davantage de résultats comme ça.
Merci Michaël Jean d'avoir été l'invité d'International aujourd'hui. Je renvoie donc à ce site libreensemble, c'est bien ça, .com, pour passer peut-être le cap des 2 millions effectivement de vues sur ce site. Merci à vous d'avoir été fidèles à cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec un ou une autre invité. Merci.
RFI, la radio du monde. Boulme sen, boulme gisme dire, nga fok ni yo, khamouma, li nek gisme sou, ak sigine, bekouma, kouma khol dal dine yo, li nek si yo, mon esiman, li nesimou, mwen dilem diapele.
Les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient des infos.